9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Les révélations du livre Les Fossoyeurs sur le groupe Orpea, le leader mondial des EHPAD, ont provoqué un scandale national. Mais l'État peut-il jouer les indignés dans cette affaire? On va voir ça tout de suite avec l'économiste Laura Nirello. Et puis les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont ouvert hier, du sport au programme donc, mais aussi de la politique. Antoine Bondaz va nous expliquer de quoi il retourne. Et l'on terminera l'émission avec le philosophe Yves Michaud qui publie L'art, c'est bien fini. Pourquoi c'est fini? D'après lui, il va nous l'expliquer.
Europe 1.
Laura Nirello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Institut Mines Télécom de Lille et au laboratoire Clercé à l'Université de Lille. Vous avez beaucoup publié sur les EHPAD. Vous avez même consacré votre thèse à ce sujet, au travail dans les EHPAD. Le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, provoque un scandale. Le groupe Orpea semble s'être enrichi aux dépens des personnes âgées qui résident dans cette maison de retraite. Mais l'État dans l'histoire peut-il se dégager de toute responsabilité?
Alors, c'est effectivement une bonne question, puisqu'aujourd'hui, toute l'attention est centrée sur Orpea en particulier. Et en fait, ce qui est important de souligner, c'est que ce qui se passe aujourd'hui chez Orpea, mais aussi dans d'autres EHPAD, c'est les conséquences de choix de politique publique qui ont été faits ces 30 dernières années. Et ce qu'on voit aujourd'hui, sans parler de maltraitance de manière systématique, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. En tout cas, il y a aujourd'hui un constat de situation difficile avec une dégradation des conditions de travail et du service qui est rendu dans de nombreux établissements. Et ça, c'est quelque chose que les chercheurs montrent depuis plusieurs années. C'est également pas le premier ouvrage qui est réalisé par un journaliste. Et il y a également de nombreux rapports publics qui témoignent de ces difficultés-là.
Le problème récurrent hein, qui pèse sur le secteur, c'est le manque de personnel. C'est le manque de personnel qui provoque les cas de maltraitance dont on a pu entendre parler. Qu'est-ce qui en est responsable, ça?
Alors, effectivement, ce manque de personnel, il vient de plusieurs choses. C'est que dans le cadre des EHPAD, depuis leur création en 1997, la décision a été faite d'essayer au maximum de rationaliser en fait, l'activité, parce qu'on est dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'État, sur ses financements publics qu'il donne pour financer ce qu'on appelle la partie soins et la dépendance, donc concrètement les aides-soignants, les infirmiers et les agents de service, il a été décidé de maintenir des enveloppes et donc de ne pas permettre pour les établissements de recruter suffisamment. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une augmentation des cadences de travail qui est très importante, mais aussi quand on parle de rationalisation, c'est une volonté de mesurer la performance de ces salariés. Or, de mesurer la performance dans un service relationnel, cela pose effectivement de nombreuses difficultés, notamment sur la prise en compte de l'humain et de l'imprévu, qui est quelque chose qui est régulier dans ces établissements.
D'après ce qu'on dit, le taux d'encadrement dans les EHPAD hein, privés est à moins de 6 employés pour 10 résidents et dans le public à moins de 7 employés pour 10 résidents, alors qu'il devrait être à 8 pour 10. Hein, ce serait le minimum. Et si ça n'est pas atteint, ben forcément, les personnes âgées souffrent.
Oui, effectivement. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'on voit que les financements publics sont les mêmes pour tous les établissements. Or, on voit bien, par exemple, que dans le secteur lucratif, on a des taux d'encadrement qui sont plus faibles dans le public. Donc déjà, il y a une première question sur pourquoi on a cette différence de taux d'encadrement. Et effectivement, aujourd'hui, avec des taux d'encadrement de 0,7, ça ne permet pas, en fait, aux soignants de pouvoir prendre le temps de faire les choses. Puisque c'est une chose de faire une toilette, de donner un repas, mais quand on est face à une personne âgée dépendante, de discuter avec elle, de prendre le temps de l'accompagner, c'est essentiel. Et aujourd'hui, qu'on soit dans le public, dans le non lucratif ou dans le lucratif, c'est de moins en moins possible.
Alors pourquoi y a-t-il un secteur lucratif, comme vous dites, un secteur privé, des EHPAD privés, commerciaux, qui représentent, si mon chiffre est exact, 24% des marchés des maisons de retraite hein, et qui sont subventionnés par l'État, donc avec une gestion industrielle des personnes âgées. Qu'est-ce qu'il justifie puisqu'il bénéficie des mêmes financements publics?
Alors effectivement, donc pour revenir très rapidement hein, sur le fonctionnement des EHPAD, en fait à la fin des années 90, face à une augmentation des personnes âgées dépendantes, il y a eu ce choix de laisser entrer le secteur lucratif. Donc on a aujourd'hui effectivement à peu près un quart d'établissements qui sont lucratifs, un tiers du non lucratif et puis 40% de public. Et en fait, l'idée, c'est que ces établissements, quel que soit leur statut juridique, bénéficient des mêmes financements publics. Ce qui va définir le financement public, c'est le niveau de dépendance moyen de l'établissement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les tarifs qui sont payés par les résidents et bien souvent leurs familles, qui parfois vont jusqu'à 3 000 euros, voire plus, dans le secteur lucratif, alors qu'on a une moyenne de 2 000 dans le non lucratif et dans le public, ce qui est déjà suffisant, je pense, ne sont pas justifiés, en fait, pour plus de personnel soignant, mais pour tout ce qui relève de l'hébergement, donc c'est-à-dire la restauration, l'animation. Alors, le secteur lucratif va dire souvent que les tarifs sont plus élevés parce qu'ils se situent dans des zones urbaines où le foncier coûte cher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile de comprendre cet écart de rémunération à part pour payer en fait les actionnaires. Et donc ça, c'est effectivement une première question qui est importante, c'est qu'on a toutes les EHPAD sont financées de la même manière, alors que derrière, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes et qu'il n'y a pas du tout de contrôle de ces tarifs.
En plus, alors ce qui est complètement incroyable au sens littéral, c'est que la liberté des tarifs est totale. Ces EHPAD privés commerciaux ont beau être financés par la Sécurité sociale et par les départements, ils peuvent facturer les chambres à des prix astronomiques s'ils en ont envie.
Exactement. En fait, le tarif payé par les résidents, il peut être encadré quand il y a une habilitation à l'aide sociale du département. Or, cette habilitation à l'aide sociale, on la retrouve souvent dans le secteur non lucratif et dans le public, et très peu dans le lucratif. Et effectivement, les structures lucratives peuvent faire ce qu'elles veulent. Et donc, comme on est quand même dans un contexte où il y a peu de places d'EHPAD par rapport au nombre de personnes âgées dépendantes, et bien, tant qu'elles parviennent à remplir leur structure, elles ont finalement tout intérêt à augmenter les tarifs.
On fait une pause, Laura Nirello, et on se retrouve juste après. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Laura Nirello, économiste à l'Institut Mines-Télécom de Lille, spécialiste des EHPAD, de l'économie de la dépendance. On a vu la liberté des tarifs est totale dans les EHPAD privés. Ils peuvent facturer au prix d'un hôtel de luxe, mais ils ne sont pas obligés de respecter la moindre norme, comme y est obligé un hôtel de luxe. Et pour cause, il n'y a pas de normes. Et pourquoi n'y a-t-il pas de normes ?
Alors, quand il n'y a pas de normes. Alors, en fait, là-dessus, il faut quand même être clair qu'effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un hôtel. Donc, il y a évidemment des règles et des normes à respecter pour tout ce qui concerne le soin et la dépendance. Enfin, évidemment, il y a des contrôles qui sont faits quand, au niveau des ARS, ils ont le temps de pouvoir faire ces contrôles. Par contre, effectivement, en termes d'hébergement et de qualité de la prestation, il n'existe pas de normes en tant que telles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équivalent, si vous voulez, d'un classement par étoile, etc. En même temps, ça peut aussi se comprendre puisque aujourd'hui, on a un peu cette idée que les EHPAD, notamment lucratifs, seraient comme des hôtels. Mais c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'est pas sur un marché qui est classique. On est dans un contexte où on a des personnes qui sont dépendantes et qui finalement n'ont pas vraiment le choix de là où elles peuvent aller. C'est-à-dire que souvent, l'entrée en EHPAD, elle se fait un peu en catastrophe. Suite à une chute, par exemple, ou à des pertes cognitives. Et en fait, les familles, elles vont là où il y a de la place. Et donc, il y a un enjeu, en fait, réel de transparence des tarifs et du niveau de qualité par rapport à un tarif à 1 000, 2 000, 3 000 euros, quoi. Et ça, effectivement, c'est pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Vous parlez des contrôles, d'après ce qu'on a pu comprendre depuis une semaine, que l'on parle de ce sujet suite à la publication des Fossoyeurs, le livre de Victor Castanet. Ils sont rares, les contrôles. Il y en a, mais ils sont rares. Est-ce qu'ils sont efficaces ?
Alors, effectivement, sur cette question du contrôle, puisque évidemment, comme c'est financé par l'État et que ces établissements rendent un service qualifié de public. Donc, les contrôles peuvent être faits par ce qu'on appelle les autorités de tarification. Or, ces mêmes autorités de tarification, aujourd'hui, ont aussi des difficultés liées à des manques de moyens. Et donc, quand on interroge, en fait, par exemple, des salariés des agences régionales de santé, ils vous disent eux-mêmes qu'ils n'ont plus forcément le temps de se rendre dans les EHPAD. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, quand il y a des contrôles, c'est aussi parce que les familles vont commencer à alerter. Mais parfois, en fait, les contrôles se font un peu trop tard. Donc il y a effectivement, mais tout ça finalement rejoint toujours cette question des moyens qu'on veut bien aujourd'hui mettre dans le secteur de la dépendance.
Alors de ces moyens dépendent effectivement, on s'en est aperçu suite à l'apparition des fossoyeurs, en prenant le cas du groupe Orpea, le numéro un du secteur, qui sacrifie le bien-être de ses résidents pour garantir ses profits. On rationne la nourriture, on rationne les moyens mis à la disposition du personnel, on rationne même les couches. C'est le système qui veut ça ?
Alors, effectivement, on voit que dans ce cas très précis, il y a une rationalisation qui est poussée à l'extrême pour permettre plus de bénéfices. Après, cette question de la rationalisation, on peut aussi la voir, par exemple, dans le secteur public ou non lucratif, où là, l'enjeu, c'est pas de faire du profit, mais tout simplement de pouvoir être à l'équilibre. Puisqu'en fait, les tarifs ne permettent pas forcément à ces secteurs de dégager même un peu de marge pour des réinvestissements. Et donc, il n'est pas rare de parler avec des soignants qui nous disent que là, elles ont dû utiliser plusieurs fois le même banc de toilette parce qu'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir changer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez omniprésent et qui n'est pas... Alors, même si dans le cas du secteur lucratif et dans l'enquête là, qui a été menée, visiblement, c'est poussé effectivement à l'extrême, mais ces enjeux de rationalisation sur plein de petites choses, on les retrouve effectivement dans le quotidien des soignants.
Vous l'avez dit, plusieurs rapports ont averti la puissance publique sur le sujet de la dépendance. Le Télégramme de Brest en a compté 7 rien que ces dernières années. Certains avaient même été commandés par le gouvernement lui-même et on n'a rien fait.
Oui, effectivement. Après, c'est pas le premier gouvernement qui ne fait rien. C'est quand même le troisième. On annonce une grande loi sur la dépendance et qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ce qui implique, en fait, ce que tous les rapports conseillent, c'est d'augmenter, en fait, le montant des financements alloués au secteur de la dépendance. Donc, ça a été chiffré, d'ailleurs. Mais ça nécessite des choix politiques. Et donc, c'est où de basculer... Alors moi, je ne suis pas une femme politique, donc je ne pourrais pas vous répondre totalement, mais où basculer certains financements qui sont par ailleurs dans le cadre de la dépendance, ou alors d'augmenter ou les cotisations sociales ou les impôts. Et ça, pour l'instant, c'est un sujet qui a toujours été repoussé. Et finalement, il n'y a aucun homme politique, pour l'instant, qui assume clairement de proposer quelque chose dans ce secteur-là, d'augmenter les financements de manière conséquente.
Ils vont bien être obligés après un scandale pareil. Vous disiez que ça avait même été chiffré. En effet, le rapport Libault en 2019 préconisait d'augmenter la contribution publique de 25%, soit 6,2 milliards par an, de plus d'ici à 2024 et puis encore plus à partir de 2030, au lieu de quoi on a fait une enveloppe de 2 milliards sur 5 ans, c'est 15 fois de moins.
Oui, c'est ça. Et donc pareil, le rapport Ibo-Rafiat parlait entre 8 à 10 milliards d'euros. Donc effectivement, après, comme vous le dites, ils sont bien obligés. Après, moi, je ne suis pas dans les discussions. Donc effectivement, il y a déjà eu la crise du Covid. On a quand même mis en lumière l'importance des EHPAD. Après, voilà, c'est aujourd'hui pas le premier ouvrage qui sort sur la question et malheureusement, on a parfois un peu l'impression que les choses prennent de l'ampleur et qu'elles retombent aussitôt. Donc ça, je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. En tout cas, je souhaite et j'espère que le fait que les citoyens aussi soient alertés par cette question, qu'il y a un vrai débat sur la dépendance et sur ce qu'on a envie de dans notre société aujourd'hui, de la manière dont on a envie de considérer les personnes âgées.
Merci Laura Nirello. Maintenant, on sait vraiment où est le problème. On fait une pause. On se retrouve juste après. On va revenir sur l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine. C'est vous que l'ambassade de Chine en France a traité de petites frappes et de trolls idéologiques.
Effectivement, il y a presque un an désormais.
Il y a un an, voilà. Alors les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin viennent d'ouvrir. Organiser les Jeux, c'est toujours une manière de se mettre en scène. Et qu'est-ce que la Chine veut mettre en valeur, à votre avis? Aux Jeux d'été de 2008, elle voulait montrer le renouveau, la modernisation, mais aujourd'hui, quel est le message?
Je pense qu'un des messages que Pékin veut faire passer, c'est celui de l'efficacité du système de gouvernance chinois, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan sanitaire. Pékin veut faire des Jeux zéro Covid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étrangers qui arrivent avec le Covid en Chine, ceux-là sont isolés, mais cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de circulation du virus lors des épreuves, en marge des épreuves, d'où ces bulles sanitaires extrêmement strictes. Et l'objectif de la Chine, c'est notamment de se différencier du Japon avec un argument clé, malgré l'hiver, malgré Omicron, il n'y aura pas de transmission à Pékin, contrairement à Tokyo.
Mais l'accueil des sportifs du monde entier par des Chinois en combinaison intégrale blanche avec des lunettes de chantier, c'est pour rassurer ou pour effrayer ?
Alors je pense que c'est né ni l'un ni l'autre. C'est une obligation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission du virus. Et le protocole en réalité d'accueil, il est similaire pour les étrangers et les Chinois quand ils rentrent en Chine depuis désormais 2 ans. L'objectif pour la Chine, encore une fois, c'est d'avoir un processus extrêmement lourd, des procédures extrêmement strictes, mais de chercher à se différencier des autres pays. Un argument qu'on entend très souvent à Pékin depuis désormais de nombreux mois, c'est regarder la situation en Europe, regarder la situation aux États-Unis, quasiment 1 million de morts aux États-Unis, en Chine officiellement 5 000 morts, et donc une grande de réussite et un succès du Parti communiste.
Officiellement.
Hein, officiellement.
Le but, c'est de montrer que la Chine, au fond, d'où est partie l'épidémie de Covid, dispose des meilleurs moyens de contrôle. Ce serait une façon de compenser ou de se présenter également en spécialiste du contrôle des populations.
Alors, je pense un petit peu des deux. Ce qui est clair, c'est qu'on met souvent en avant la Chine comme un ou la responsable de la pandémie. Or, la Chine, aujourd'hui, veut se montrer, se présenter au monde comme un pays responsable. Non pas responsable de la pandémie, mais responsable face à la pandémie, qui cherche à mettre en œuvre, encore une fois, des procédures extrêmement strictes et une expertise qui pourrait potentiellement être utilisée à l'étranger. Or, on le voit aujourd'hui, la stratégie de zéro Covid chinoise, elle n'est plus reprise par personne d'autre que peut-être Taïwan, mais encore une fois, c'est une île. Plus largement, encore une fois, l'objectif de Pékin, c'est vraiment cette supériorité du système de gouvernance. L'objectif, c'est de discréditer les systèmes libéraux, occidentaux, démocratiques. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir que dans la déclaration sino-russe, publiée juste avant cette cérémonie d'ouverture, lors de la première rencontre de Xi Jinping avec un dirigeant étranger depuis 2 ans, la question de la démocratie arrive en premier. Les deux pays se présentent comme des pays démocratiques qui défendent la démocratie contre une version fourvoyée des Occidentaux. Et là, on se met bien dans une logique de système contre système.
Et alors, on sait que les Jeux vont se dérouler dans une bulle, un peu comme au Japon, hein, pas de public, aucun contact entre les étrangers et le reste du pays. Il est même interdit aux Chinois de porter secours à un véhicule utilisé par les Jeux qui serait tombé en panne sur la route. Tout ça, c'est pour rassurer la population chinoise ou la persuader que la stratégie zéro Covid est la meilleure, ou c'est pour faire passer les étrangers pour des malades en puissance?
Alors je pense qu'il y a un peu des deux. C'est évidemment pour rassurer la population qui, en réalité, est assez satisfaite de la gestion ces derniers mois de la crise. Oui, il y a des confinements. Oui, ils sont extrêmement stricts, mais ils sont extrêmement localisés. La ville de Xi'an, c'est 10 millions d'habitants, mais par rapport à 1,4 milliard de Chinois, cela représente un petit sacrifice que l'on demande à seulement une petite frange de la population. Par rapport aux étrangers, on a évidemment la mise en scène que le virus aujourd'hui vient de l'étranger. Ce n'est d'ailleurs pas très nouveau dans la propagande chinoise, puisqu'on se rappelle par exemple en mars 2020 que le porte-parole des affaires étrangères chinois avait mis en avant la rumeur d'une importation américaine du virus dès l'automne 2019, ce qui évidemment n'a jamais été démontrer, ce qui laisse sceptiques évidemment les scientifiques du monde entier.
C'est vrai que depuis mars 2020, Xi Jinping n'est pas sorti de son pays, n'a reçu personne. C'est là pour la première fois qu'il revoit des dirigeants étrangers. La Chine a en effet supprimé 98% des vols internationaux qui la relient au reste du monde. Alors, pour nous protéger, pas pour nous protéger, hein, pour se protéger elle, évidemment. Mais est-ce que ça n'est pas aussi la possibilité là, d'interdire aux étrangers de se déplacer dans le pays comme ils pouvaient le faire librement en 2008? Et on sait qu'aujourd'hui, avec les accusations sur la façon dont la Chine traite les Ouïghours, elle n'est pas très encline à laisser les journalistes se promener.
Alors, ce qui est clair, c'est que le travail des journalistes en Chine depuis de nombreuses années est rendu de plus en plus difficile. D'ailleurs, l'Association des journalistes étrangers étrangers en Chine a remis un rapport il y a quelques jours qui témoigne vraiment de cette dégradation extrêmement importante des conditions de travail. Plus largement, on a une reprise en main du régime par Xi Jinping et un tournant autoritaire depuis une dizaine d'années. On a en quelque sorte une double concentration du pouvoir dans la société autour du parti, dans le parti autour de Xi Jinping et des libertés publiques, des libertés individuelles qui sont de plus en plus remises en cause. Alors je ne sais pas si les mesures sanitaires visent à éviter que des étrangers aillent dans d'autres zones ou dans certaines zones. Aujourd'hui, le déplacement entre les provinces est autorisé lorsqu'il n'y a pas, encore une fois, de risque sanitaire. Il est très difficile d'aller ou de sortir de Pékin, mais entre d'autres provinces, et on l'a vu avec le nouvel an chinois, les personnes peuvent se déplacer. La question qui se pose plus largement, c'est l'accès aujourd'hui au terrain. C'est une chose d'aller en Chine, c'est une autre chose d'avoir accès au terrain, c'est-à-dire pour un journaliste, pour un chercheur, pour des observateurs étrangers, de pouvoir savoir ce qu'il s'y passe réellement. Et on le voit avec la proposition chinoise d'invitation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et notamment de la haute représentante Madame Bachelet, d'aller au Xinjiang, que cette visite en réalité serait une mise en scène de la présence de l'ONU au Xinjiang, mais en aucun cas de la liberté de ces mêmes personnes, de pouvoir se renseigner sur ce qu'il s'y passe réellement.
On fait une pause, Antoine Bondaz, on se retrouve juste après, j'ai encore des questions à vous poser.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont ouvert hier. Je suis ce matin avec Antoine Bondaz, qui est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est un spécialiste de la Chine. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des représentants d'organisations internationales étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Pas notre ministre déléguée au sport. Elle n'arrivera que plus tard. Elle n'était pas à la cérémonie. Elle viendra seulement voir les athlètes. Néanmoins, toute cette cérémonie, c'est une façon de montrer que la Chine, en dépit des appels au boycott, n'est pas isolée sur le plan international.
C'est clairement l'objectif et le message de Pékin, c'est de dire que ceux qui sont isolés aujourd'hui, ce sont les Occidentaux, qui ne sont pas venus, qui ont boycotté, que ce soit de façon officielle et assumée, comme les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, ou de façon non assumée, comme l'immense majorité des États membres de l'Union européenne, ce boycott. L'objectif de Pékin, c'est de dire que les vrais amis de la Chine, en réalité le vrai monde, entre guillemets, est en Chine et que ce sont les Occidentaux qui s'excluent de celui-ci. Il faut quand même rappeler par contre qu'en 2008, cette question du boycott se posait déjà. La chancelière Merkel n'était pas allée à Pékin, le Premier ministre britannique Brown n'était pas allé à Pékin, et si George Bush, à l'époque président américain, s'y était rendu, il avait été très sévèrement critiqué par deux candidats démocrates à la présidentielle. C'était le cas d'Hillary Clinton et de celui qui deviendra ensuite le président Obama. Donc on a une question ancienne, celle du boycott. Et aujourd'hui, par contre, une Chine qui est beaucoup plus puissante et surtout qui retourne ce boycott à son avantage. Les Occidentaux sont jaloux, ils sont isolés. Et surtout, les Américains sont incapables aujourd'hui, c'est l'argument chinois, de mobiliser l'ensemble de leurs alliés pour qu'ils reconnaissent qu'ils font un boycott.
Naguère encore, on parlait beaucoup du Tibet, on n'en parle plus. On a parlé de Hong Kong, on en parle moins. Aujourd'hui, on parle surtout des Ouïghours.
Effectivement, on parle des Ouïghours depuis déjà plusieurs années, même si pour le grand public, c'est à partir de 2020 que la situation de violation systématique des droits de l'homme dans le Xinjiang est apparue. Les diplomates français et européens, depuis de très nombreuses années, s'inquiètent de la situation et le disent ouvertement. Mais on a très clairement une mobilisation de la société civile, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Quelques mesures qui sont prises, par exemple, l'Union européenne a sanctionné des dirigeants considérés comme étant responsables de ces violations des droits de l'homme. Mais il y a une sorte de malaise du point de vue européen. C'est comment faire en sorte d'améliorer la situation dans la région autonome. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas beaucoup de leviers. Et donc la question qui peut se poser, c'est comment est-ce que les pays ne sont pas au moins complices parfois ou bénéficient parfois de certaines de ces violations des droits de l'homme. C'est tout l'enjeu, par exemple, en ce moment au niveau européen, de ce qu'on appelle le devoir de vigilance, c'est-à-dire s'assurer que les entreprises, dans leur chaîne de valeur, n'aient pas de sous-traitants qui utilisent de la main-d'œuvre forcée, du travail forcé, que ce soit d'ailleurs de Chine comme d'autres pays.
La Chine est riche, elle est très riche, ça se voit hein, depuis l'ouverture de ces Jeux. Les sportifs sont bluffés par les installations olympiques. Pas sûr que ce soit la même chose à Paris en 2024, où on ne cesse de rogner sur les infrastructures. Il faut dire que la Chine est le seul pays du G20 à avoir connu deux années de croissance ininterrompue en 2020 et 2021. La Chine est une puissance économique indéniable, mais est-elle la première du monde en parité de pouvoir d'achat? Oui, mais pas en PIB par habitant. $17 000 en moyenne pour les Chinois, 65 000 pour les Américains.
Alors la Chine, effectivement, désormais, c'est une très grande puissance économique. C'est la deuxième puissance économique si on prend non pas en pouvoir d'achat, mais en PIB nominal. Par contre, c'est la première puissance manufacturière, c'est la première puissance commerciale, c'est la première puissance en matière de réserve de change et c'est le premier pays en termes d'attraction d'investissement direct étranger. Donc la Chine est une grande puissance, c'est incontournable. Elle utilise également ses leviers de puissance à des fins politiques. Et on le voit par exemple en ce moment même vis-à-vis de la Lituanie, un État membre de l'Union européenne, mais aussi d'entreprises européennes qui font l'objet de sanctions de la part de la Chine. Donc la Chine est puissante, elle le fait savoir. Et la question qui se pose de plus en plus en France et en Europe, c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour être plus résilients, être moins dépendants et in fine garantir notre souveraineté, qu'elle soit économique, technologique, industrielle.
Néanmoins, Antoine Bondaz, ces Jeux d'hiver ne sont-ils pas risqués pour la Chine? Elle n'a pas nos traditions montagnardes, le ski ne fait pas partie de ses spécialités. Les Chinois peuvent-ils rivaliser sur la neige avec les Européens?
Alors pour l'instant, non. Par contre, pour Pékin, le fait d'accueillir ces JO est extrêmement important. Important en termes de prestige. La Chine rejoint un club très restreint, une douzaine de pays qui ont accueilli ces JO d'hiver. Deuxièmement, Pékin devient la première ville à accueillir les JO d'été et les JO d'hiver. Et puis surtout, Pékin veut créer une dynamique. Ce n'est pas l'aboutissement d'une dynamique, c'est le début d'une dynamique. Faire découvrir les sports d'hiver aux Chinois, s'assurer que cela crée un écosystème en Chine avec des retombées financières extrêmement importantes. Et en cela, la Chine multiplie les partenariats avec le Japon, avec la France, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour développer cette industrie des sports d'hiver et s'assurer que les classes moyennes chinoises n'aillent pas seulement à l'étranger pour dépenser leur argent, mais le dépensent évidemment en Chine pour l'économie chinoise.
Comment, à votre avis, les Chinois nous voient-ils aujourd'hui, nous, les Occidentaux? Avec condescendance, avec un sentiment de supériorité, de confiance en eux, un peu comme on les regardait, nous, il y a 25 ou 30 ans?
Je pense qu'il y a une vraie différence générationnelle. Les personnes plus âgées en Chine ont parfaitement conscience des sacrifices qui leur ont été demandés et du formidable développement économique du pays qui a été connu ces 40-50 dernières années. De la part de la jeune génération, il y a peut-être sûrement beaucoup plus d'arrogance. D'ailleurs, un professeur de l'université Tsinghua, celle dont Xi Jinping a été diplômé et qui est pourtant considéré comme un faucon et pas vraiment une colombe, reconnaissait que la génération née après 2000 était beaucoup trop arrogante, beaucoup trop sûre d'elle, qu'elle n'avait pas conscience des sacrifices qui avaient été demandés à leur famille et surtout qu'ils prenaient de haut les autres pays et notamment les pays asiatiques. On a donc un nationalisme qui se développe à vitesse grand V en Chine. Ce n'est pas nouveau, ça fait déjà quelques décennies que le parti utilise la fibre nationalisme comme une source de légitimité. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce nationalisme ne va pas déborder un jour ou l'autre, et poser évidemment encore plus de tensions.
Merci Antoine Bondaz. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un philosophe, c'est Yves Michaud. On va parler d'art.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Yves Michaud.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, ancien directeur de l'École des Beaux-Arts. En 2003, dans votre livre « L'art à l'état gazeux », vous décriviez une double évolution. On est passé de la peinture et de la sculpture, dites-vous, à des installations qui enveloppent les spectateurs. C'est ça, l'art à l'état gazeux. Et puis, l'art s'est répandu partout. Ça, c'est ce que vous appelez l'esthétisation de la vie. C'est sur cette seconde évolution que porte votre nouveau livre « L'art, c'est bien fini », qui vient de paraître chez Gallimard. Un essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères. C'est quoi l'hyperesthétisation?
L'hyperesthétisation, c'est l'esthétisation, mais je dirais de tout, hein, depuis les rites funéraires, hein, je veux dire, et qu'avoir les modes de crémation, par exemple, jusqu'à la politique, hein, par exemple. Bien sûr, les loisirs, bien sûr, le tourisme, bien sûr, l'esthétique corporelle, bien sûr, le design, etc.
Les objets,
la cuisine, la mode. Je vais aller au restaurant et vous verrez que presque partout, même dans les provinces, maintenant dit territoires les plus reculés, on a des assiettes décorées à la Pollock, hein, je veux dire. Et puis, c'est aussi l'esthétisation en profondeur, c'est-à-dire aussi bien, je veux dire, des choses réellement esthétiques, le luxe, par exemple, que de la vie quotidienne. Et puis, je dirais, avec des moyens de plus en plus puissants.
Les corps customisés, à la fois par la chirurgie, mais aussi par les piercings et les tatouages, ça fait partie de l'esthétisation du monde ?
Bien sûr, y compris aussi les corps esthétisés par la gymnastique, le coaching, les compléments alimentaires, la diététique, les diététiciennes,
mais
etc.
Mais est-ce que ça signifie que l'art n'a plus la même fonction qu'autrefois ?
Alors effectivement, c'est-à-dire que dans tout ça, l'art d'abord est concurrencé, l'art avec un grand A, si vous voulez, l'art qui est dans ce que j'appelle les ZEP, les zones esthétiques protégées, les musées, les galeries, les revues d'art, etc., etc. L'art, d'une part, est très sérieusement concurrencé, puisque, je veux dire, il y a de l'esthétique un peu partout, ce qui fait qu'il se réduit finalement, il a un public qui est de plus en plus réduit et restreint, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un public puissant, hein. Et puis, en même temps, il est pris aussi dans cette logique de l'esthétisation. Un bon exemple, je pense, aujourd'hui, c'est la manière dont les musées eux-mêmes deviennent des lieux esthétiques. On n'y va pas pour voir des œuvres d'art, on y va d'abord pour voir le musée, que ce soit la Fondation Vuitton, que ce soit Guggenheim, que ce soit l'art de Centre d'art d'Arles, aujourd'hui. Je veux dire, c'est le musée lui-même qui est esthétique.
Vous dites que c'est devenu un divertissement, mais aussi que c'est devenu un art moral et même édifiant.
Oui, alors là, je dis que dans mon livre que les trois valeurs prépondérantes de l'art contemporain, encore une fois, l'art avec un grand art, par celui que font, je dirais, les amateurs, mais c'est l'argent, hein, je veux dire, combien ça vaut, c'est à quel point ça fait venir du public, c'est divertissant, ça fait de l'événementiel, des VIP. Et puis alors, moi, ce qui me sidère, c'est l'invasion d'une bondieuserie sulpicienne. Disons que là, je regardais par exemple les projets qui ont été retenus par la délégation aux arts plastiques et le ministère de la Culture pour soutenir les artistes. Si vous ne parlez pas de migrants, de transgenres, de pauvres, de gens abandonnés et de la nature, bien sûr, en plus, tous ces pauvres animaux, vous n'êtes pas un artiste. Hein.
Oui, il y a plus que de l'art décoratif quand on vous écoute.
Alors, effectivement, mais l'art décoratif, il est surtout présent, je dirais, ailleurs, c'est-à-dire à travers, je dirais, la mise en scène de la vie quotidienne, à travers le design. En fait, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'art avec un grand A a été remplacé par le design, mais pas le design des objets, le design de tout. Je veux dire, le design des atmosphères, le design des ambiances, le design sonore, le design olfactif aussi. De ce côté-là, vous avez. Je trouve que le meeting de Mélenchon a été hyper esthétique. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit l'autre jour à un type qui tractait pour Mélenchon. Il me disait : « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Je lui dis : « Hyper esthétique, Mélenchon. » Je veux dire, c'est vraiment l'esthétisation de la politique avec, je dirais, toutes les puissances de la technique. Hein.
Dans l'hyper-esthétisation du monde, il y a un côté, quand on vous lit, Yves Michaud, un côté industriel de la production et de la consommation. Donc oui. Le tourisme, au fond, est le meilleur exemple.
Le tourisme est le meilleur exemple, mais je dirais aussi le triomphe aujourd'hui du design de partout, que ce soit pour les boîtes de nuit, pour les restaurants, pour les hôtels, encore une fois pour les stations de métro, pour toutes les ambiances. Ce sur quoi j'insiste beaucoup dans le livre, c'est la notion d'esthétiqueur, c'est-à-dire que toute cette esthétique, elle est fabriquée, elle est produite par des gens qui sont très compétents. Hein, je veux dire, là, quand on traverse les bureaux pour venir au studio d'enregistrement, on voit bien que c'est entièrement designé par des esthétiqueurs très compétents. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément très agréable, mais en tout cas, c'est conditionné.
Mais en même temps, on se dit, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? Les stations de métro étaient décidées par Guimard, enfin du moins l'entrée des stations de métro, et elles étaient très belles avec leurs carreaux blancs. Il y avait une esthétique déjà, il y avait un art des jardins
bien sûr.
Au XVIIIe siècle.
Je suis tout à fait d'accord, mais je dirais que ce qui est important, c'est que c'est la puissance aujourd'hui qu'on a. Je veux dire, quand on esthétisait le métro. Effectivement, il y avait on taillait par exemple les carreaux de porcelaine de manière biseautée pour augmenter la luminosité, mais on n'avait pas la maîtrise de l'éclairage comme on l'a aujourd'hui. On n'avait pas la maîtrise des odeurs. Moi, je fais partie d'une génération ancienne qui a vécu un métro qui sentait mauvais, méphitique. Et aujourd'hui, on vaporise des bonnes odeurs dans le métro. Il y a du design sonore aussi dans les stations qui sont en courbe pour prévenir les gens, en leur faisant pas trop peur, mais en même temps en les alertant. Donc il y a toujours eu une esthétisation, mais la puissance aujourd'hui est considérable. Et alors avec le numérique et la virtualisation, alors là, on saute dans l'immatériel.
Tout ça, au fond, c'est lié au progrès de la technologie. Ce serait ça qui ferait que l'art, c'est bien fini ?
Moi, je crois que oui. Enfin, l'art, c'est bien fini sous la forme de l'art moderne et de l'art dont nous avons eu le culte, c'est-à-dire sous la forme de l'art, en gros, entre 1800, le début du romantisme, le romantisme et le néoclassicisme, et puis, je veux dire, les années 1990, le postmodernisme. Là, il y a eu une grande période de culte de l'art, de religion de l'art, sacralisation de l'art. Donc ça, je pense que c'est bien fini, et au profit de ce que j'appelle l'art-entertainment, c'est-à-dire le divertissement. De ce côté-là, ce qui remplacera le musée, c'est plutôt quelque chose comme l'atelier des images, qui a un énorme succès, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris, que ce soit à Aix-en-Provence, où on immerge les gens dans des expériences esthétiques, mais qui ne sont plus des expériences du grand art.
Yves Michaud, c'est quoi les conséquences du fait que l'esthétique est partout ? Vous dites qu'on vit une vie d'idiot sensitif.
Alors là, c'est un autre versant de mon livre que je prolongerai peut-être dans un autre encore, puisque mes livres se approfondissent en général chaque fois un thème différent. C'est qu'en fait, à cette esthétisation correspond une nouvelle forme de sensibilité et nouveau type de personnalité. C'est-à-dire une personnalité qui est hédoniste, qui veut que les choses aille vite, soit facile, n'accroche pas, qu'elle soit lisse, que tout vienne d'un coup, tout de suite, encore, avec du plaisir, beaucoup. Ça correspond quand même beaucoup aux jeunes générations, sans les critiquer. Maintenant, le problème, c'est que la réalité... Alors, d'un côté, ça s'évade vers l'immatériel. Je veux dire, je crois que l'esthétisation mène au virtuel, hein, au monde du virtuel, au métaverse. Hein, je veux dire, parce que là, ça sera parfait. On n'aura jamais de
rencontre avec l'art.
On sera immergé dans un univers qui sera parfaitement à notre convenance. Mais en même temps, de temps en temps, arrive la réalité. Et alors là, à ce moment-là, ça cogne et ça fait très mal.
Merci Yves Michaud. Votre livre s'intitule « L'art, c'est bien fini ». Ça vient de paraître chez Gallimard.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. Vous avez rendez-vous à présent avec les grandes voix animées par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour ce programme. Eh bien, nous avons les menaces de mort à l'encontre de notre consoeur d'M6, Ophélie Meunier, après la diffusion d'un reportage sur l'islamisme radical à Roubaix dans Zone Interdite. Les carnets de campagne des grandes voix à J-64 avant le premier tour. Et puis cette question, la France doit-elle quitter le Sahel ?